Oui, Paul-Joseph Caïtoucle est donc conseiller général d'un canton rural et maire d'une petite commune et aussi président d'une association qui présentera cet après-midi une expérience. En fait, moi, je voulais revenir sur l'intervention de Monsieur Gatel, que j'ai trouvée vraiment centrale et brillante, tout simplement pour dire qu'en fait, sur l'affichage et la visibilité de l'ESS, je crois que dans les zones rurales, on en a fait comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et puis, quand on regarde un petit peu, je suis d'une zone où il y a, au niveau de la préhistoire, les habitations, la manière dont on travaillait, eh bien, le départ de la vie humaine, de l'agriculture, s'est organisé avec la notion du social, du solidaire et de cette entraide. Mais je voulais revenir à ce que vous disiez, parce que ce que vous avez, dans les années 80, vous dénonciez comme, je ne sais plus comment vous l'avez expliqué, la volonté du capitalisme et autres, nous, à l'époque, en tant que militants, c'était pour nous une visée, entre guillemets, coloniale qui était dite. Et on s'est aperçu après, et je m'en suis aperçu récemment, puisque j'étais très jeune à cette époque, en 83-84, qu'en fait, le remède était pire que le mal à un moment. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur un rapport de la DATAR de 1984 et un travail qui avait été effectué dans la vallée dans laquelle je travaille aujourd'hui au développement en tant qu'élu et représentant. Et ce travail-là, en fait, il a été contrebalancé par une révolution qui a été faite à Aléria sur le vin, qui a donné quelques années après des résultats, mais qui, en fait, a été l'implantation d'une monoculture de type directement ensuite sur les grosses structures et autres. Donc, pour revenir là-dessus, c'est que moi, je pense que dans l'économie sociale et solidaire, dans ces plans qu'il y a là, il y a un travail à faire que j'ai fait sur ce territoire et que je vais, bien entendu, remettre à l'ADEC, à la CRES, parce que ce qui a été dit ce matin par les élus, c'est que en période de crise notamment, et sur ces éléments-là, il faut vraiment qu'on le mette au-dessus des logiques partisanes. Et dans ce rapport, dans cette rétrospective, avant de faire de la prospective, dans cette rétrospective, j'ai fait émerger l'ensemble des points qui ont mené à la dynamique d'économie sociale. Donc, c'était la relance du pastoralisme, la création d'innovations sur les filets à récolter les olives, le grillage mouton pour clôturer, la lutte incendie, la prévention incendie au travers de l'installation du pastoralisme et de ces éléments-là. Et en fait, on s'est aperçu, et à l'époque, c'est pour ça que je pense que ce qu'a dit Florence Boniface est tout à fait juste, même si tout n'est pas parfait comme dans toutes les sociétés, on a fait d'énormes pas, puisque dans les années 75-80, il y avait un choc frontal entre le mouvement associatif et ceux qui tentaient de relancer cette économie, et le politique, où il y avait vraiment deux blocs monolithiques, en tout cas en Corse. Donc aujourd'hui, on a fait d'énormes pas. Et aujourd'hui, pour ma part, c'est l'expérience que je montrerai cet après-midi, c'est que ce qu'il faut qu'on ait, c'est une charte éthique. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que nous ne sommes que des hommes, des êtres humains, que donc tous nous avons nos égos et autres, et que c'est à la veille d'échéances politiques que tout ce travail est remis en question et qu'on a des coupes sombres sur les financements, etc., etc. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une charte éthique qui lie le territoire aux acteurs locaux, de façon à ce qu'on puisse remettre chaque année ou tous les 2 ans au collège ou aux écoles le travail qui ne nous appartient pas, mais qui appartient au peuple et qui appartient au denier public. Et ça, je crois que quand on regarde dans l'histoire et en revenant en 82, je crois que si on pouvait avoir accès aux données de la DATAR, on aurait des éléments intéressants qui nous permettraient de voir justement qu'il y a des cycles. Et dans ce rapport, j'en aurais terminé, qui est sur le site de la fresque, on voit que même si le contexte a changé, les conditions de chômage, les conditions de précarité, les conditions de crise économique internationale sont les mêmes en 2014 qu'en 84. Donc on a un tournant. Et ce tournant, pour bien l'aborder et pour l'aborder de façon durable, de façon à ce qu'on ait des politiques durables, eh bien, il faut tenir compte des échecs et des réussites du passé. Et je pense que c'est la propre de l'intelligence de l'homme qui le différencie de l'état animal, c'est justement de faire ce point-là, d'avoir ce recul-là. Donc, je crois qu'on est à cette période-là et qu'il y a vraiment des choses à faire, à construire, mais en tenant compte de ce qui s'est passé auparavant.
Je vous remercie. Il y avait eu une autre intervention un peu plus haut.
Donc, on aura effectivement le plaisir d'entendre des développements à partir de la présentation de la fresque cet après-midi. Et puis, sur la question territoire rural, Okra a également l'expérience de Okra sur la question de la valorisation des territoires qui, à mon avis, apportera
voilà, dans la
quelques
première
pistes.
Table ronde.
Merci. Hubert Germain, je suis le président de l'association Montagne Habille Emploi Solidarité, qui est basée en pleine zone rurale dans le haut pays grassois, puisque notre siège social est à Saint-Auban. Je connais très bien ce monde de la ruralité, puisque, comme mon ami Jean-Paul Henry a la gentillesse de me citer, je suis également l'ancien maire d'une commune de ce canton de Saint-Auban qui s'appelle Briançonnet. 200 et quelques habitants recensés. Vous voyez donc le pourcentage par rapport à une ville comme Grasse ou une ville comme Cannes. Alors moi, je fais part d'une simple expérience personnelle. Pourquoi être arrivé à entrer dans le monde de l'ESS ? Tout simplement parce que dans des zones rurales, s'il n'y a pas des bonnes volontés qui se manifestent davantage que dans les zones urbaines fort peuplées, où il y a une masse de possibilités de tous ordres, s'il n'y a pas dans nos petites collectivités ce besoin de servir, et non pas de se servir, j'oserais dire, eh bien, on n'arriverait à rien du tout. Et l'exemple le plus probant est celui de mon ami Jean-Paul Henry, qui justement va participer aujourd'hui à l'échelle de notre communauté d'agglomération à une responsabilité qui justement va permettre d'aider les réalisations comme celles qu'on a faites à Montagne-Habille ou au cœur d'un territoire totalement désertique, j'oserais dire. Et je vais faire une petite image, une petite parenthèse pour rappeler ce qui se dit dans notre département des Alpes-Maritimes. 90% du territoire avec 10% de population, 10% du territoire sur le bord de mer, si je puis dire, avec 90% de la population. Je sais que le terme économie a l'air de choquer ou d'embêter quelques-uns parmi les intervenants. Moi, il ne m'étonne pas ce terme-là. Ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'il y a une sorte de trilogie économie, solidarité et sociale. Les trois ne sont pas dissociables, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les a mis ensemble, j'imagine. Mais ce que je trouve de plus important dans cette définition, bien sûr que chacun des termes a son importance, mais celle qui, à mon sens, a le plus d'importance, c'est le terme de la solidarité. Nous sommes dans une société aujourd'hui où, s'il n'y a plus de solidarité, il n'y aura plus de société à plus ou moins brève échéance. Je crois que ça, c'est essentiel. Et dans les territoires ruraux que j'ai eu l'honneur, on va le dire ainsi, c'est le terme qui convient, de représenter pendant tout de même un temps assez long. Je ne le suis plus depuis un an. Mais j'y ai pris cette responsabilité sociétale, donc, où le social et la solidarité sont essentiels, c'est que s'il n'y a pas dans ces zones rurales qui sont pauvres parmi les pauvres, ce genre d'associations, d'organisations professionnelles qui se créent, on n'arrivera à rien. Vous savez, notre territoire, le Haut Pays Grassois, est un territoire particulièrement pauvre. Les Alpes-Maritimes, à l'image de beaucoup de territoires en France, ont eu des zones qui ont été favorisées, peut-être grâce à certaines attitudes d'hommes politiques à une certaine époque, et des territoires qui ont été oubliés. Jean-Paul faisait état de représentant du quart-monde. Moi, je veux vous dire que pendant très longtemps, quand nous parlions de nos territoires, on parlait du désert des Tartares. Ça veut bien dire, dans l'image, que vraiment, on n'attendait pas grand-chose si on ne se bougeait pas. On s'est bougé, et je crois que tout le monde, dans l'économie sociale et solidaire, se bouge pour arriver à quelque chose. Moi, il y a un point que je me permettrai d'aborder sans que cela soit ou péjoratif ou insultant au regard des responsables que vous êtes les uns et les autres aujourd'hui. Ce qui est fatigant pour les acteurs de cette économie-là, de l'ESS, c'est le poids administratif. Est-ce que depuis ce matin, vous avez conscience les uns et les autres du nombre de sigles, d'organismes, organisations et autres que l'on a cités ? Mais on s'y perd, c'est affolant. Et lorsqu'on est responsable d'une association comme la mienne, j'ai en gros, selon les périodes, entre 17, 18 et 20, 22, 24 employés. 9 CDI, le reste étant dans le cadre d'un chantier d'insertion ou d'emploi aidé, que j'oserais dire classique. C'est un parcours du combattant. J'ai ma principale collaboratrice à ma droite. Il se trouve être également mon épouse, parce que justement, on a décidé de tomber dans ce creuset et d'y travailler ensemble. Mais s'il n'y a pas cette masse de dévouement, cette abnégation, j'oserais dire, et l'absence totale de recherche d'intérêts particuliers ou partisans, on n'arrivera à rien. Mais ce qu'il faudrait arriver, et je le dis aux responsables de la région, à l'ancien responsable ministériel qui était monsieur, il faut simplifier au maximum. Lorsque j'étais maire, et ceux qui le sont aujourd'hui ou les élus, entendent dire sans arrêt qu'il faut supprimer toutes ces fameuses normes, en tous les cas les simplifier ou les réduire. Mais chez nous, c'est pareil. Arrêtons de nous noyer, de noyer l'économie sociale et solidaire sous de la paperasse. C'est rien de le dire. Il faut savoir le temps qu'on y passe. Et le temps qu'on passe là-dessus, c'est au détriment de l'accueil et de l'accompagnement des gens qui sont dans ces associations, qui sont dans cette économie. Ce qui compte, ce n'est pas de faire de la paperasse, c'est de produire du travail, c'est d'aider les gens à avoir un job, c'est d'aider les gens à retourner vers l'emploi. Je crois que c'est ça qui est l'essentiel dans ce type donc d'activité, dans cette économie sociale et solidaire. Pour ce qui nous concerne, on se bat pour cela. Tout à l'heure, on parlait d'aide, d'échelle, d'aller du bas vers le haut, du haut vers le bas, peu importe. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai entre 25 et 26 000 euros à sortir tous les mois pour faire fonctionner le personnel, pas l'association, le personnel, donc l'association, bien sûr, par définition. Aujourd'hui, je suis devenu un mendiant professionnel à force de taper à toutes les portes, à force de taper à toutes les communes, qu'elles soient petites ou grandes. Moi, j'ai des communes qui me font un don de 50 euros par an. Ce sont des toutes petites communes de 30 à 40 habitants parce qu'elles estiment devoir mettre la main à la poche, si je puis dire, même si c'est modestement, pour aider la seule organisation professionnelle digne de ce nom sur un vaste territoire. Eh bien, aujourd'hui, des communes comme Grasse, la communauté d'agglomération, pardon, du pays de Grasse, m'aide, mais il faut savoir, comme la ville de Cannes d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec notre secteur territorial, on va le dire ainsi, politique, dans les cas, mais qui, par solidarité du haut vers du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, peu importe, eh bien, m'aide également dans le cadre d'une convention de partenariat. Mais je peux vous assurer que je ne suis pas polytechnicien, hélas, mais pour arriver à s'en sortir, à suivre toutes ces obligations administratives, il faut non seulement de l'abnégation, mais il faut de la patience et il faut un cœur énorme. Et ça, je le retrouve un petit peu à travers les propos que certains d'entre vous tiennent depuis ce matin. Et je tiens à remercier effectivement cet appel à l'humain qui a été fait à la fois par Madame Marie-Louise Gourdon, par Jean-Paul Henry et par mes deux amis, puisque j'ai la chance d'être leurs amis, Jérôme Viau et Marc Donis. Parce que tant qu'on aura des responsables comme eux, on pourra avancer. Mais également des responsables tels que Jean-François Piovesana, Valérie, Tétu, et tous ces gens-là qui sont autour de nous. Ah ben, oui. Je suis un petit peu long, pardonnez-moi,
merci,
mais
monsieur,
ça restera.
Parce que
mais
justement,
il faut quand même que les responsables que vous êtes, les représentants d'organismes que vous êtes, sachent qu'il y a,
je crois qu'ils ont compris, il faut
dans
simplifier,
la salle
simplifier
des participants à cette économie,
la
madame. Et oui, non, mais si on ne le dit pas, je si on reste assis dans notre siège, j'aurais eu l'impression d'être venu pour rien.
C'est bon,
je veux que vous
passé,
sachiez,
monsieur,
les responsables, que cette économie est dirigée avant tout par des femmes et des hommes qui y mettent leur cœur et qui n'ont pas de recherche d'intérêt particulier.
Bah, écoutez, je crois que justement aujourd'hui, c'est la bonne
merci.
Journée pour en parler. Le message est passé, donc de la simplification et de la visibilité sur les territoires. Et justement, cet après-midi, lors des deux tables rondes, nous aurons aussi l'opportunité de parler de ces organisations, également en milieu rural, de l'ESS, qui arrive à trouver les bons fils et qui s'en sortent et qui fonctionnent bien. Et on pourra parler de leur réussite. Avant, je vous remercie, mesdames, messieurs, les élus et autres. Et je vous souhaite bon appétit. Et on se retrouve tout à l'heure, donc, à 14h, si je ne m'abuse, pour une première...